Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde pour l'actualité vue par les rédactions langues étrangères de RFI avec ce soir un studio exclusivement féminin, comme la semaine dernière d'ailleurs, avec Anya Stroganova de la rédaction russe.
Dobry vech.
À propos de cette oukase de l'église orthodoxe russe, elle écarte les prêtres en effet qui dénoncent la guerre en Ukraine menée par la Russie. Pour la rédaction en anglais, Melissa Shemam.
Good evening.
Pour un point sur les relations entre la France et l'Afrique en 2024, et Tana Tran de la rédaction vietnamienne pour nous dire que les exportations de riz du Vietnam se portent à merveille. Avant cela, ce qui fait la une de l'actualité, c'est le commencement de l'élection américaine en vue de la présidentielle, le vote ayant lieu en novembre prochain. Alors les grandes manœuvres ont déjà commencé dans les deux camps, chez les républicains comme chez les démocrates. Tana, exactement 10 mois avant ce vote, nous sommes à quelques jours de la première des primaires républicaines et également d'ores et déjà deux candidats semblent s'imposer.
Oui, il s'agit de Donald Trump et Joe Biden. L'un était dans l'Iowa le samedi dernier et un jour avant lui, c'est le candidat républicain Joe Biden qui était en Pennsylvanie. Donald Trump, 77 ans, 45e président des États-Unis, est un grand favori du camp républicain. Il ne cesse de répéter que cette élection de cette année est la dernière chance pour sauver l'Amérique. Donald Trump, c'est aussi quelqu'un qui est habitué au grand débordement dans ses prises de parole. Exactement le jour près du troisième anniversaire de l'assaut contre le Capitole, l'ex-président des États-Unis appelle à la libération des otages du 6 janvier 2021.
Les otages étant donc ces militants, c'est comme ça qu'il les appelle.
C'était juste des gens qui ont pris l'assaut le Capitole.
Et dans l'autre camp,
on a un Joe Biden, 82 ans bientôt. Il est au plus bas dans les sondages. Son âge est forcément un handicap. Son bilan économique est plutôt bon, mais pas assez bien aperçu par la population. Et enfin, il est en pleine bataille avec le Congrès dans les mains des républicains. Le 46e président des États-Unis qualifie son rival et prédécesseur de menace existentielle pour la démocratie.
Il y a donc déjà eu des meetings et il y a résolument les primaires républicaine. Elle commence lundi, donc dans 3 jours, Melissa Shemam. Quel est le rapport de force entre les postulants républicains?
Alors, Donald Trump domine largement, c'est clairement ce qui ressort des sondages. Par rapport à ses compétiteurs, on peut citer les deux suivants, notamment le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et Nikki Haley, qui est l'actuelle ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies.
Quant aux démocrates, ils ont lancé leur campagne cette semaine, notamment pour tenter de regagner le vote des immigrés, des minorités.
Tout à fait. Joe Biden a officiellement commencé sa propre campagne pour ses élections de novembre en s'adressant à une population africaine-américaine ainsi qu'aux latinos et aux asiatiques, à l'occasion de dénoncer notamment la suprématie blanche dans ses discours, alors que le camp démocrate s'inquiète de plus en plus de l'éloignement de ces populations.
Et le point commun entre ces deux hommes, c'est qu'ils ont tous deux fort à faire avec la justice. Trana, tout d'abord, Joe Biden.
Oui, Joe Biden est affaibli par les accusations de trafic d'influence que des millions ont gagné par son fils Hunter à l'étranger de manière assez obscure. Le problème est que ces procès touchent à la fonction même du président et soulèvent des questions sans précédent sur son rôle constitutionnel.
Concernant Donald Trump, aussi des problèmes avec la justice.
La liste est encore un petit peu plus longue. Premièrement, depuis la fondation des États-Unis, une élection présidentielle se déroule en même temps que l'un des principaux candidats peut être condamné et en même temps être élu. Alors, Trump doit faire face à un procès civil pour fraude financière parce qu'il est accusé avec ses fils d'avoir gonflé de manière colossale durant les années 2010 la valeur de leur hôtel de luxe ou golf, etc. Et puis, il faut savoir que le 4 mars prochain, à Washington, les juges essaieront de savoir si Donald Trump a, oui ou non, exercé des pressions pour tenter d'inverser les résultats de l'élection de 2020. Et puis, cette date du 4 mars sera très importante parce qu'on sera à la veille d'une des plus grosses échéances des primaires républicaines, le Super Tuesday, qui se tient dans une quinzaine d'États. Et Donald Trump, également, début février, sera déclaré inapte ou non à la fonction suprême par la Cour suprême fédérale, après que deux États, au moins, à savoir le Colorado et le Maine, ont déclaré qu'il est inapte à cette fonction.
Et bien évidemment, Donald Trump commente ses décisions. Hein. Il dit que la justice est aux ordres de ses adversaires, Mélissa Chemam.
Oui, dans le camp de Donald Trump, on le cite, ce que le futur candidat ou le wannabe candidate exprime, c'est que tout ceci est un complot du camp du président pour le discréditer. Et Joe Biden souhaite ainsi l'affaiblir selon ses propos. Et il espère ainsi que cela pourra reconquérir son propre camp.
Oui, il parle de l'escroc Joe Biden qui serait coupable à ses yeux d'ingérence électorale. Le plus paradoxal, c'est que finalement, plus Trump voit s'accumuler les déboires judiciaires et puis des attaques dans les médias, plus il grimpe dans les sondages. Pourquoi ?
Oui, alors Mélissa vient de le dire. Actuellement, dans le camp des Républicains, Trump fait la course en tête. Et dans les sondages, il est au coude à coude avec Joe Biden. La première réponse pour répondre à votre question, c'est la domination de Trump parce qu'il a une base assez bien établie au sein du Parti républicain. L'électorat républicain est donc un électorat en colère. C'est donc une alliance des classes populaires de l'Amérique profonde et de la droite chrétienne conservatrice. Cette base, elle est exaspérée par l'éloignement des élites républicaines. Cette base, elle accepte et elle pense que seul Donald Trump a les capacités de redresser le pays et donc, par conséquent, peu importe ses défauts, ses excès de langage, etc. Et le paradoxe de la situation vient toutefois à ce que, comme on vient de le dire, Trump dispose d'une base très importante. Mais ce qu'il y a, c'est que parmi les autres candidats républicains, eh ben, ils ne sont pas capables de rassembler comme Donald Trump.
Alors, on a parlé de l'économie, de l'immigration. Il y a aussi l'actualité du monde qui va peser sur cette élection. Les guerres, alors, il y a l'Ukraine, il y a aussi la situation au Proche-Orient, Mélissa.
Oui, tout à fait. La rédaction anglophone a voulu suivre la politique étrangère des États-Unis et comment cela va peser dans la campagne. Je citerai notamment un auteur régulier du Guardian, Mustafa Bayoumi, qui écrit: Arab Muslim younger voters face a choice between Biden, who does little to stop mass Palestinian deaths, and the xenophobic Trump. Donc l'idée, c'est ces électeurs-là, qui sont une minorité grandissante, les Arabes, les musulmans, et aussi les jeunes, s'intéressent à cette question palestinienne et ils n'ont le choix qu'entre quelqu'un qui ne fait rien contre la mort massive de Palestiniens et Trump qui est xénophobe.
Un grand nombre de démocrates reprochent par exemple à Joe Biden son soutien inconditionnel à Israël.
Oui, c'est ce qui s'est passé et ce qu'on a pu voir en suivant notamment la visite du secrétaire d'État, Blinken, au Proche-Orient, qui s'est rendu à Ramallah et qui a rencontré le président de l'autorité palestinienne. Blinken a affirmé qu'il était là pour remontrer ses engagements, notamment à la constitution d'un État palestinien, donc pour tenter de compenser un peu pour ces semaines où le pays et le gouvernement qui suit le président Biden s'est vraiment montré aux côtés d'Israël. Donc Blinken a voulu rassurer, il a notamment prédit qu'il avait obtenu des engagements de plusieurs pays arabes dans la région pour constituer une gouvernance à Gaza après la guerre notamment, et aussi des alliances avec l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Qatar, les Émirats et la Turquie pour créer ensuite une voie vers un État palestinien. Des propos qui contrastent donc avec la formulation de ces dernières semaines et notamment le soutien inconditionnel du président Biden au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Anya Sroganova, l'éventualité de la réélection de Donald Trump inquiète beaucoup d'Européens.
Oui, je citerai Tara Varma, chercheuse sur les relations transatlantiques à la Brookings Institution à Washington. Elle est citée par le journal français Le Monde, qui, elle, parle d'une perspective terrifiante pour les Européens, d'abord à cause de ses conséquences immédiates sur leur sécurité, alors que la Russie ne faiblit pas dans ses attaques contre l'Ukraine et que Trump n'a jamais fait mystère de son aversion pour les organisations multilatérales comme l'OTAN, fin de citation. Les pronostics de cette possible réélection font en effet peur. L'Ukraine se retrouverait suspendue dans le vide. Poutine aurait intérêt à intensifier le combat en anticipant la fin de l'aide américaine à Kiev. En Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou aurait toutes les raisons de se réjouir, de même que le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, avec lequel le président Trump avait mené un très amical mais infructueux dialogue, note la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann dans sa chronique. Une réélection de Donald Trump provoquerait une onde de choc qui dépasserait largement l'Europe.
Et puis il y a ce que dit, ce que raconte le commissaire européen qu'est Thierry Breton à propos du candidat républicain, Anya.
Oui, à quelques jours du lancement de la campagne électorale américaine, ce haut responsable européen a raconté que l'ancien président américain avait averti en privé que les États-Unis ne viendraient pas en aide à l'Union européenne si elle était attaquée militairement. Vous devez comprendre que si l'Europe est attaquée, nous ne viendrons jamais pour vous aider et vous soutenir, lançait Donald Trump à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en 2020, la scène a eu lieu lors d'une réunion au Forum économique mondial de Davos. Monsieur Breton y était présent. Au fait, l'OTAN est morte et nous allons partir, nous allons quitter l'OTAN, a également déclaré M. Trump, selon M. Breton, qui tient donc à alerter ses collègues aujourd'hui au moment de la campagne américaine.
Autre chose à propos donc de ce scrutin qui aura donc lieu au mois de novembre, avec un certain nombre de meetings, de prises de position, de débats, de spots de publicité, d'activités sur les réseaux sociaux, et la question de savoir si la propagande russe interviendra, s'ingérera dans ce scrutin américain.
La propagande russe se défend d'ores et déjà d'une possible ingérence et prend ainsi position pour Donald Trump, le candidat favori de Moscou. Il l'était en 2016, il le reste en 2024. L'administration Biden prépare le terrain pour une éventuelle défaite. S'il perd, ils mettront tout sur le dos de Moscou. S'ils gagnent, ils diront qu'ils ont empêché toute ingérence dans les élections, a déclaré à l'agence d'État russe RIA Novosti Konstantin Blokhin, expert au Centre d'études de sécurité de l'Académie russe des sciences. Selon cet expert russe, les chances que Trump gagne ces élections sont très élevées. On commence déjà donc à préparer le public russe à une possible réélection de Donald Trump. Et les titres de la presse russe concernant Trump sont d'ailleurs très évocateurs. Trump critique sévèrement Biden, mais complimente Poutine et Xi Jinping. On voit donc de quel côté se place Moscou dans cette élection.
Voilà donc pour ce début de campagne électorale aux États-Unis, sachant que le scrutin en tant que tel aura lieu au mois de novembre prochain.
20
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Accent du monde dans toute sa richesse et sa diversité, puisque nous allons nous intéresser dans un premier temps à et aux exportations de riz du Vietnam. 2023 a été une année fructueuse. Le volume et les prix des exportations a atteint un niveau record de plus de 8 millions de tonnes, ce qui représente près de 5 milliards de dollars. Tran la Tran de la rédaction vietnamienne. Ce riz, il profite du fait que l'Inde et d'autres pays ont temporairement arrêté leurs exportations, et c'était l'été dernier.
Oui, tout à fait. Le Vietnam étant le deuxième ou le troisième exportateur selon les années, derrière l'Inde et la Thaïlande, et les prix à l'exportation ont beaucoup augmenté, en moyenne autour de 663 dollars par tonne, en raison d'une très forte demande. Et comme vous le savez, il y a également un léger déplacement de la demande de blé vers le riz en raison de la guerre en Ukraine. Le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam s'en félicite.
Pour quelles raisons le prix du riz vietnamien augmente ?
Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, parce que la demande du marché international a augmenté et l'offre diminue parce qu'il y a aussi des éléments tels que le changement climatique. Ensuite, l'offre mondiale du riz diminue parce que certains pays, comme l'Inde, on vient de le dire, a souhaité, pour des raisons de sécurité alimentaire nationale, stopper ou interdire carrément les exportations de riz. Avec une production de plus de 43 millions de tonnes de riz, outre la consommation intérieure, la transformation et le stockage, le Vietnam peut assurer les exportations jusqu'à 8 millions de tonnes de riz.
Vous vouliez nous parler du riz non basmati, qui est un riz bon marché et qui représente un tiers du volume total des exportations de riz de l'Inde. Et ça, ça pèse sur ce dont nous parlons.
Oui, mais il faut savoir aussi que le riz vietnamien est un peu différent du riz basmati. Pour répondre à votre question, dans notre rédaction, nous avons sollicité l'avis d'un spécialiste, professeur Wo Tong-sun, qui est président honoraire de l'Université du Sud de Kent.
Oui, cái kỹ thuật trồng lúa của đồng bằng Phú Long của mình chọn cái giống lúa ngắn ngày thì mình ngắn hơn trăm ngày.
Qu'est-ce qu'il vous a expliqué ?
Alors, il nous explique que la clé réside dans le choix de la variété de riz. Le Vietnam possède des techniques de culture issues du delta du Mékong, choisissant les variétés de riz à court terme, c'est-à-dire inférieures à 100 jours. Et au cours des 40 ans, des 40 dernières années, la qualité de riz du Vietnam n'a cessé de s'améliorer. Notamment en 2019, deux types de riz vietnamiens à court terme ont été récompensés internationalement. Et la deuxième chose, c'est que les surfaces de culture font partie des zones de sécurité, c'est-à-dire avec une bonne alimentation en eau et ce qui favorise la productivité. Cette surface représente en gros 1,5 million d'hectares, donc de très bonnes terres dans le delta du Mékong.
Tout à l'heure, vous parliez du changement climatique. Ça veut dire que les producteurs du delta du Mékong, justement, ont su s'adapter pour rester compétitifs ?
Alors, étant à Paris, j'ai plutôt consulté l'avis de notre expert au Vietnam pour répondre à cette question. Alors, d'après lui, il semblerait que la réponse est oui, mais il a surtout beaucoup insisté sur le choix de variétés de riz cultivées au Vietnam. Il semble dire que le Vietnam a fait un meilleur choix sur la variété de riz que les Thaïlandais et la différence de prix peut aller jusqu'à quelques centaines de dollars pour une tonne sur les qualités de riz. Et c'est également la qualité de la variété de riz qui donne un meilleur rendement et ce qui explique que le Vietnam non seulement est suffisant pour sa sécurité alimentaire nationale, mais également en mesure de répondre aux besoins de ses voisins et une partie du Moyen-Orient et une partie de l'Afrique.
Et puis il y a l'Europe. On trouve bien sûr du riz vietnamien dans les supermarchés en Europe, en France. Est-ce que ce riz il a besoin davantage de faire sa promotion ?
Alors, pour répondre indirectement à votre question, notre invité à l'université de Kent dans le delta du Mékong nous explique cela.
Cet expert s'appelle Wo Tong-juan. Qu'est-ce qu'il dit ?
Alors, il nous explique que nous devons surtout, enfin, le Vietnam devrait surtout travailler avec tous les agriculteurs de manière à œuvrer à des processus de production propres. Et c'est-à-dire que veiller à la réputation du riz vietnamien. Concrètement, il faut savoir que réduire les engrais chimiques, réduire les engrais pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également augmenter la part des engrais organiques et microbiens pour ajouter des micronutriments et d'autres substances au plan de riz et en même temps fournir des micro-organismes que le plan de riz peut absorber pour les tiges. Depuis, les plants de riz n'ont pas été malades et les agriculteurs on réduit également l'utilisation des pesticides dans leurs champs.
Est-ce que le marché international peut compter sur le riz vietnamien à long terme maintenant ?
Alors, la stratégie du Vietnam, c'est de développer le marché des exportations jusqu'à 2030, mais après 2030, il prévoit donc de réduire un petit peu en quantité pour améliorer la qualité. L'objectif principal étant de promouvoir l'exportation de riz de haute qualité et d'assurer la sécurité alimentaire nationale, de même que protéger l'environnement et l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est un thème important.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur le riz vietnamien qui cartonne, si je puis dire, en ce moment. C'était avec Tana Trinh de la rédaction vietnamienne de RFI. En Russie, l'Église orthodoxe se débarrasse de prêtres qui dénoncent la guerre. Début janvier, la veille de Noël orthodoxe russe, un éminent prêtre moscovite a été interdit de célébrer. Son seul tort, s'opposer à la guerre en Ukraine. Anya Stroganova de la rédaction russe, dites-nous en plus sur ce qui est arrivé à Alexis Ouminski.
Ce prêtre de 62 ans a été démis de ses fonctions de recteur de l'église de la Sainte Trinité à Moscou et interdit de célébrer par décret du patriarche de Moscou, Cyril. Alexis Ouminski est très connu dans les milieux d'intelligentsia russe et moscovite pour son soutien inconditionnel et ancien aux prisonniers politiques de Poutine. Il les visite en prison et dans des colonies pénitentiaires. Il vient aux tribunaux pour soutenir les opposants lors de leurs procès. Il aide les enfants polyhandicapés et surtout, il prône la paix en Ukraine, une position inacceptable pour le tout-puissant patriarche russe qui défend la guerre jusqu'à prendre fait et cause pour les armes nucléaires.
Pour marquer symboliquement son éviction, ce prêtre a été remplacé par un chantre de la guerre.
Oui, son remplaçant s'appelle Père Andrei Tkachev. C'est un prêtre orthodoxe originaire de l'Ukraine qu'il a quitté en 2014 à la suite de ses prises de position agressivement pro-russes. Celui-ci représente le cercle des patriotes orthodoxes, proches notamment d'Alexandre Douguin, l'idéologue de l'extrême droite, nous explique Sergei Chapnin, chercheur et spécialiste de l'orthodoxie. On va l'écouter.
Que vous a-t-il dit ?
Il nous explique donc que ces patriotes orthodoxes sont ceux qui soutiennent la guerre de manière inconditionnelle, sans aucune réserve. Il s'agit du cercle de l'oligarque orthodoxe Constantin Malofeyev, Alexandre Douguin, mais aussi de quasiment toutes les structures administratives officielles de l'Église orthodoxe russe. Malofeyev et Douguin occupent une place très importante dans l'espace informationnel russe et veulent influencer au moins le patriarche Cyril, à défaut d'avoir accès direct, d'avoir accès direct au Kremlin. Et pour cet expert, le père Alexis a été remplacé par un manipulateur pur et dur qui prône la haine et la violence.
Écoutons-le.
На его место поставили человека, который такой откровенный манипулятор, который, ну, собственно говоря, там в Украине он преступник, да?
Aidez-nous à comprendre, Anya.
Il peut nous décrire un peu ce personnage de Père Andrei Tkachev, qu'il qualifie comme un manipulateur pur et dur. Il nous explique qu'il est né et qu'il a grandi à Lviv, donc à l'ouest de l'Ukraine, mais qu'il a, malgré ses origines, il propage la haine de la culture ukrainienne et de l'Ukraine. Il prêche la violence au sens le plus large du terme, la violence familiale, la violence de l'État, la violence d'une nation contre une autre, donc quelqu'un qui s'oppose radicalement à ce prêtre qui a été évincé.
Cela dit, ce n'est pas la première fois que l'Église orthodoxe en Russie prend des mesures disciplinaires contre des prêtres qui s'opposent à une guerre.
Exactement. Par exemple, au mois de mai dernier, un autre prêtre moins connu qui s'appelle Juan Koval il a remplacé le mot « victoire » par le mot « paix » lors d'une prière. Il s'est vu retirer son rang de prêtre et donc il a été obligé de s'exiler en Turquie. Et d'ailleurs, c'est l'un de ses paroissiens qu'il avait dénoncé. Il faut noter qu'il est devenu aujourd'hui quasi impossible pour les prêtres orthodoxes de s'exprimer, même avec précaution, sur ce sujet, car ils sont menacés non seulement par leur chef au sein de l'Église, mais aussi par les nouvelles lois répressives, comme nous explique notre expert.
Quelle
est l'analyse de Sergei Chapnin ?
Il nous dit que dans la situation de non-droit qui règne en Russie, on peut s'attendre à tout. Toute position anti-guerre exprimée publiquement ou même en privé peut conduire non seulement à la révocation, mais aussi à d'autres conséquences graves. Par exemple, pour tous les prêtres jeunes, il existe une protection informelle contre la mobilisation des réservistes. Donc on peut très facilement dire à un prêtre anti-guerre, nous vous défroquons et vous perdez automatiquement votre protection et donc vous allez combattre au front. Donc, comme il nous explique, de fait, les prêtres sont menacés non seulement de sanctions ecclésiastiques, mais aussi de représailles de la part de l'État. Et dans cette ambiance où règne peur et menace, la grande majorité de l'Église orthodoxe russe reste malheureusement silencieuse.
Anya Stroganova de la rédaction russe de RFI. Parlons maintenant des relations entre la France et ses anciens alliés africains, Niger, Mali, Gabon. Mélissa Chemam de la rédaction anglophone. Après une année 2023 difficile pour la France en Afrique, vous êtes intéressée donc aux perspectives pour l'année qui commence.
Oui, tout à fait. Et j'ai notamment parlé à Babacar Ndiaye, qui est chercheur au Timbuktu Institute. Selon lui, la France vit un moment décisif dans ses relations avec l'Afrique, des relations qui sont probablement les plus détériorées depuis le début de la colonisation, voire de l'esclavage. On l'écoute.
The military coup in Niger and its consequences will go down in history as a watershed landmark in France.
Quelle est son analyse ?
Alors, il nous dit que le coup d'État militaire au Niger notamment et ses conséquences resteront dans l'histoire, selon lui, comme un tournant décisif pour les relations avec la France. C'est un changement transhistorique, postcolonial majeur pour les pays francophones, au-delà du Niger. Et c'est le plus important changement depuis le XVIIIe siècle. Il pense que c'est un facteur marquant, par exemple, que la junte militaire au pouvoir sur l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, mais aussi un des membres fondateurs de la francophonie, le Niger donc, est un instrument d'influence majeure pour la France, cette francophonie. Donc cette junte a pris l'initiative du divorce face à une France toujours relativement puissante en comparaison. Et le divorce a donc été humiliant, selon lui, à l'image de l'esclavage de nombreux Africains et des conquêtes coloniales.
Alors si les échecs militaires et diplomatiques de la France en Afrique sont flagrants, qu'en est-il des liens économiques et culturels ?
Alors c'est tout l'enjeu pour cette année 2024, notamment avec les Jeux Olympiques, avec le problème des visas pour les étudiants accentué par la loi immigration récemment votée. Et pour beaucoup de gens qui sont impliqués dans ces relations franco-africaines, il faut améliorer ces relations. Babacar Ndiaye pense que la France a tout intérêt à y travailler, et ce pour plusieurs raisons. D'abord pour une très grande population ouest-africaine présente en France, des relations donc centenaires, et puis pour ses intérêts stratégiques en matière d'éducation, de commerce extérieur et d'échanges culturels.
Le commerce extérieur, le commerce également, donc, Mélissa ?
Oui, la France a longtemps été l'un des partenaires commerciaux les plus importants pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et clairement, cette année 2024, elle se fera largement devancer, notamment par la Chine, mais aussi par les États-Unis et même par l'Allemagne, qui veut être donc le remplaçant européen de la France. C'est ce qu'on a vu lors notamment du séjour du Premier ministre allemand en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Et sur le plan du soft power, parmi les jeunes, les chefs de l'armée sont de plus en plus populaires, non seulement par rapport à leurs prestations de service public, mais plus par rapport à leur rhétorique sur les questions de souveraineté. Et ils jouent donc sur un ressentiment persistant à l'égard de la France. C'est ce qu'a souligné le groupe Crisis Group, le groupe de réflexion, dans sa liste des 10 conflits à surveiller en 2024. Mais pour Babacar Ndiaye, si la situation semble négative, voire risque de s'empirer, il est possible aussi que cela mène ces pays africains francophones à réinventer leurs relations avec la France et donc plus largement avec les pays du Nord. On l'écoute.
So after over 300 years of tutelage and influence, control, more or less, francophone countries will now have
L'analyse de Babacar Ndiaye, c'est quoi ?
Alors, il nous dit, on doit constater qu'il y a eu plus de 300 ans de tutelle et de contrôle d'influence dans ces pays désormais plus ou moins francophones. Et ils vont désormais devoir apprendre à voler de leurs propres ailes, cesser d'être les clients de la France. Pour le meilleur ou pour le pire, il est grand temps que cela se produise, selon lui, car ils devront désormais trouver des solutions eux-mêmes à leurs propres problèmes. Et cela pourrait les amener à rechercher plus de créativité, plus d'ingénuité et de volonté politique pour trouver des ressources nécessaires. Et donc pour la France, ce serait aussi une occasion de normaliser ses relations et non plus d'avoir un rapport postcolonial. Et au final, ce serait donc positif pour tout le monde. Il ne se veut pas, non pas pessimiste, il pense que la France a besoin de l'Afrique et réciproquement. mais que même si d'autres pays pourraient à terme jouer un rôle plus important, cela rendrait ces liens transatlantiques plus justes et plus multilatéraux.
Mélissa Chemam de la rédaction en anglais de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde, réalisé par Laurent Philippot ce soir. Accent du Monde à retrouver bien évidemment sur le site internet de RFI et sur les applications Pure Radio.